Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 21 juin avec des feux de végétation recensés hier encore dans l'est et le nord du département. En ville, les épisodes de canicule mobilisent les agents de la métropole et cette année, le premier épisode de canicule a été bien précoce. Pascal Blanchard, le vice-président du Grand Lyon en charge de la santé et des personnes âgées, est plutôt inquiet. La préfecture du Rhône a publié un arrêté listant les mesures spécifiques qui seront en vigueur ce soir à l'occasion de la fête de la musique. Une fête qui prendra la forme d'un boulevard musical entre Lyon et Villeurbanne en particulier. Du côté de Villeurbanne, 700 tables seront disposées le long du cours Émile Zola. Attention, les axes seront fermés à partir de 13h et jusqu'à 2h du matin. Le métro B va passer en mode automatique très prochainement, 7 jours sur 7. Explication dans le courant de cette édition. Damien Abad peut-il, comme ses fonctions le requièrent, incarner l'intérêt général? C'est l'intitulé d'une tribune publiée dans le journal Le Monde et signée par 188 femmes qui réclament sa démission. L'ancien adjoint à la culture de Raymond Barre, Denis Troux, est décédé. Il avait 86 ans. Nous parlerons également dans ce quart d'heure lyonnais du Lyon Street Food Festival qui se prépare du 23 au 26 juin aux usines Fagor-Brandt. La seconde édition du Rallye du Cœur aura lieu au château de la Haye dans le Beaujolais dimanche prochain. Objectif, réunir des fonds au profit de l'Appel, une association philanthropique qui œuvre pour le bien-être des enfants cancéreux et de leurs familles. Et puis l'Olympique lyonnais sous bannière américaine, c'est quasiment fait.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. L'Est et le Nord du département du Rhône ont été en proie à des feux de végétation encore hier. Les pompiers sont intervenus sur 7 incendies à Arnat, Brinda, Chabanière, Chassieux, Cublize, Mions et Toussieux. Une dizaine d'hectares à brûler, des récoltes, chaumes, broussailles et autres arbustes. Du personnel devait rester sur les lieux toute la nuit à Cublize pour surveiller là un feu de bois. Le risque d'incendie reste important pour les jours à venir. L'alerte orange à la canicule est prolongée au moins jusqu'à 16h ce mardi sur le département. En ville, les épisodes de canicule mobilisent les agents de la métropole et cette année, le premier épisode de canicule a été très précoce. Pascal Blanchard, vice-président du Grand Lyon en charge de la santé, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, se dit inquiet en raison du manque de personnel si les températures atteignent des records cet été. Pascal Blanchard.
On le sait, aujourd'hui, les EHPAD sont en grande difficulté. Toutes les structures qui accueillent des personnes fragiles, tant du handicap que du grand âge, sont soumises à une difficulté liée au manque de personnel. Gérer la canicule, c'est des heures et des bras en plus nécessaires. Le fait de vérifier à ce que tout le monde boive, ça peut paraître très très basique, mais ça veut dire qu'il faut du personnel qui vienne voir chacun des résidents pour s'assurer qu'ils se sont hydratés plusieurs fois par jour. Vous savez, les personnes âgées, par exemple, n'ont plus le sentiment de la soif. Et donc, ils peuvent passer la journée sans boire et sans réclamer à boire. C'est bien ça qui nous inquiète. Sur le terrain, les effets d'annonce, c'est une chose. Sur le terrain, ce qui m'importe, moi, ma délégation, c'est prendre soin des personnes les plus fragiles et qu'il n'y ait pas un bilan, et je ne veux même pas parler de mortalité, mais simplement d'affaiblissement des résidents et également des soignants.
Quelle est l'action de la métropole? Alors, quand il y a justement ce déclenchement au niveau orange, par exemple, ça change quoi? Il faut appeler les gens? Faut faire quoi?
Ah ben, on appelle systématiquement les gens. Hein. Dès lors qu'on rentre en période de vigilance jaune. Il y a le plan, c'est un plan sur le mode hors sec. Hein. On appelle systématiquement toutes les personnes qui sont identifiées. On vérifie que tout se passe bien, qu'ils n'ont pas de difficultés particulières. Évidemment, ça demande aussi une grosse coordination de façon à ne pas les appeler 20 fois et qu'on soit sûr d'appeler tout le monde et juste le nombre de fois nécessaire. On leur demande s'ils ont besoin de quelque chose, si éventuellement ils ont besoin d'être visités, si quelque chose se passe mal. On leur rappelle évidemment tous les numéros d'urgence. Et puis tout ça, c'est centralisé dans une bonne coordination. Mais il faut reconnaître qu'avec l'expérience, parce que ça n'est pas d'aujourd'hui, hein, depuis 2003, je le rappelais tout à l'heure, on y a gagné en compétences. Ça, on sait le gérer. Si on n'avait pas ce phénomène de tension en matière de ressources humaines, je dirais que bien sûr que c'est difficile à vivre, mais on devrait pouvoir passer à travers les gouttes. Je rappelle que la loi de 2003 qui impose aux établissements recevant des publics fragiles les pièces réfrigérées, ça ne concerne pas notamment les crèches. collège. Et là, on a quand même des enfants qui sont aussi d'une grande fragilité. Un jeune enfant ne peut pas être exposé à toutes conditions climatiques. Et là, moi, je salue avec beaucoup de ferveur les personnels qui gèrent comme ils peuvent le confort des enfants sur cette situation caniculaire. On n'y est pas encore. On est en pic de chaleur. La canicule, ça commence à partir du niveau rouge.
Pascal Blanchard, vice-président de la métropole, il devrait faire jusqu'à 34 degrés à Lyon cet après-midi. La préfecture du Rhône a publié un arrêté listant les mesures spécifiques qui seront en vigueur ce mardi à l'occasion de la fête de la musique. En particulier, la vente d'alcool à emporter, interdite à partir de 17h. La vente, la détention et l'usage de feux d'artifice, fusées et pétards sont interdits sur la voie publique. La détention, le transport et la vente de carburant en récipient portable, interdits également. Toutes ces dispositions sont valables sur l'ensemble du département. Pour que les festivités se terminent bien, le préfet appelle à la plus grande prudence sur les routes et au strict respect de la limitation légale de l'alcoolémie au volant. 700 tables seront disposées ce soir le long du cours Émile Zola à Villeurbanne. Une fête de la musique qui se veut comme un boulevard musical jusqu'à l'hôtel de ville de Lyon. Dès 14h30, plus de 1000 enfants des écoles de Villeurbanne vont déambuler avec des ustensiles du quotidien, s'improvisant instruments de musique. Ce sera le long de l'avenue Henri Barbus et en présence de Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture. C'est lui qui instaura cette fête en 1982, il y a tout juste 40 ans. Le cours Émile Zola et le cours Vuitton seront fermés à la circulation de 13h à 2h. Le métro B passe en mode automatique 7 jours sur 7 dès samedi prochain. Des essais ont été réalisés certains dimanches du mois de juin. Des essais qui ont donc été concluants.
Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
Damien Abad peut-il, comme ses fonctions le requièrent, incarner l'intérêt général? C'est l'intitulé d'une tribune publiée dans Le Monde à l'initiative de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique et de nous toutes. 188 femmes, dont Clémentine Autain, Alice Coffin ou encore Laurence Rossignol, demandent la démission du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Damien Abad a été réélu dimanche député de la 5e circonscription de l'Ain. On recense aussi parmi les signataires de cette tribune trois lyonnaises: Anne Gros-Perrin, vice-présidente de la métropole de Lyon, ainsi que Sophie Popoff et Nathalie Dehan, qui sont conseillères à la métropole. Publicitaire, ancien adjoint à la culture de Raymond Barre, puis président de l'Office du tourisme de Lyon, Denis Troux est décédé d'une longue maladie. Il avait 86 ans. On lui doit par exemple la création des subsistances ou encore le classement de Lyon au patrimoine mondial de l'humanité, aux côtés d'Annie et Régis Néret. Du 23 au 26 juin, les usines Fagor-Brandt dans le 7e accueillent la 6e édition du Lyon Street Food Festival. Au menu, 300 ateliers participatifs, 80 performances culturelles, 20 espaces scénographiques et les mets de plus de 120 chefs et leurs brigades. Découverte en avant-première avec Cassandre Bro.
La musique traditionnelle du Portugal. Et là aussi, ça va bouger, je vous garantis.
Chaque année, le Lyon Street Food Festival est un peu plus grand. Pour cette 6e édition qui se déroule du 23 au 26 juin, les organisateurs ont vu les choses en grand. 120 chefs, 21 étoiles en tout, 300 ateliers culturels, 80 performances artistiques et musicales, comme vous l'entendiez précédemment. Un festival qui vous fera aussi voyager entre le Portugal, le Pays Basque et l'Asie avec le Asia Street Market. Les petits nouveaux de cette année sont pourtant une institution mondialement reconnue, comme s'en réjouit Émeric Richard, l'un des organisateurs.
C'est un peu le Graal, le restaurant Paul Bocuse, qui pour la première fois sort tous ses chefs hors les murs pour cuisiner au festival.
Et c'est Olivier Couvin et Benoît Charvet qui, en personne, seront au fourneau.
Alors pour la partie sucrée, Benoît prépare un shock and roll. C'est un beignet dans l'esprit d'un beignet, mais un peu plus complexe quand même, avec des ganaches de chocolat fermentées, avec tout son univers à l'intérieur, qui sera servi chaud, enrobé de sucre, donc très très gourmand pour l'avoir goûté. Et nous, on proposera un plat du restaurant, une quenelle de brochet et homard avec une sauce champagne, le tout arrosé d'une fine huile de homard pour rehausser le goût et normalement, c'est pas trop mauvais.
Le tout pour 5 euros la portion, parce que c'est aussi ça le Lyon Street Food Festival, du partage accessible à tous. D'ailleurs, une autre nouveauté et pas des moindres, elle donnera la couleur à cette édition particulière.
La première grosse nouveauté, c'est une nouvelle scène qui s'appelle Street Food Stories. On va mettre les chefs chefs sur scène pour parler d'eux, de leur parcours, de pourquoi ils font ce métier-là. L'objectif, c'est susciter des vocations, donner envie à la nouvelle génération de s'engager sur ces métiers. On sait tous qu'il y a un peu une pénurie en ce moment de main-d'œuvre dans ces métiers qui sont pourtant des très beaux métiers. Donc devenez chef, ce sera le message de ce lieu.
La mixité et faire naître des vocations font partie des grandes lignes de cette édition 2022, vous l'aurez compris. Et qui dit street food dit aussi emballage, d'où l'importance pour Aymeric d'avoir une responsabilité écologique claire.
Ça, c'est un sujet important, l'éco-responsabilité. Il y a beaucoup de sujets liés à un festival de chefs. On a un cahier des charges drastique. Tous nos emballages sont recyclés, recyclables, et on demande aux chefs d'en utiliser le minimum. La recette idéale, c'est une portion servie dans une feuille de chou avec un pic de bambou. Et là, on est content.
Pour vous rendre au Lyon Street Food Festival, rendez-vous du 23 au 26 juin aux anciennes usines Fagor-Brandt dans le 7e arrondissement de Lyon.
Merci Cassandre. La seconde édition du Rallye du Cœur aura lieu au Château de Lay dans le Beaujolais dimanche prochain, le 26 juin. Un rallye automobile pour la recherche contre le cancer des enfants et qui fédère plus de 50 entreprises partenaires et sponsors autour de 220 équipages composés d'un pilote et d'un enfant. Nous avons rencontré Franck Denoyel, l'organisateur.
En amont du rallye, les équipages s'inscrivent gratuitement et ils s'engagent à lever des fonds sur leur propre équipage, 250 euros par équipage. Et puis plus on arrive jusqu'au jour J et plus la cagnotte commence à monter. Donc. Et le jour J continue la récolte de fonds. Voilà. Donc l'année dernière, on avait fait 237 000 euros en tout. Et donc le jour J, les véhicules arrivent le matin. Les enfants qui sont alloués au véhicule arrivent également, doivent trouver le véhicule dans lequel ils vont monter et ils passent la journée avec leur pilote. D'accord. Et la journée, c'est quoi? C'est une boucle de 50 km qu'ils vont faire dans le véhicule qui leur a été alloué. Ce pilote et l'enfant ont fait connaissance une semaine ou deux avant l'événement par téléphone. On les met en relation pour qu'ils commencent à créer un lien. Et le jour J, ils partagent cette émotion incroyable. Ils ont des étoiles plein les yeux, évidemment. Donc c'est vraiment une super journée.
C'est un moment de rêve, hein, partagé à la fois pour le pilote et pour l'enfant.
Pour l'enfant surtout, parce que voilà, il est le copilote, il a un roadbook dans les mains, il dit à droite, à gauche. Alors lui, ça le fait complètement oublier sa maladie. Lui, ses frères et sœurs aussi, puisque chaque frère et chaque sœur a aussi un véhicule à louer. Et les parents sont évidemment très contents. Et alors, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le pilote, qui est en général quelqu'un qui a les moyens, qui effectivement se fait plaisir avec son auto, là il donne toute sa journée à l'enfant. Et on a des retours d'expérience qui sont incroyables, des relations qui sont nouées et qui continuent après l'événement.
Objectif, récolter 300 000 euros de dons au profit de l'association L'Appel, une association philanthropique qui œuvre pour le bien-être des enfants cancéreux et de leurs familles. Nous avons rencontré Rose Fromont, la présidente de cette association.
C'est une association qui a été créée par des parents pour des enfants malades. Donc le premier axe, c'est l'enfant malade, atteint de cancérologie dans sa globalité, que ce soit hématologie, des leucémies ou des cancers solides. C'est également l'accompagnement des familles. Et pour finir, l'aide à la recherche clinique.
Concrètement, quelles sont vos actions dans une année?
Alors nos actions, c'est sur l'hôpital, on est en permanence, c'est-à-dire qu'on est physiquement une fois par semaine, mais on est en relation directe avec l'hôpital, chaque fois qu'ils ont besoin de quoi que ce soit par téléphone, par mail, voilà, on est présent pour tout. Voilà, ça peut aller effectivement de tout ce qui est ludique pour l'enfant, de la prise en charge de la douleur, de financer une sophrologue, une réflexologue, d'aider pour les classes vertes et les classes blanches, d'aider tout ce que l'argent public ne peut pas, parce qu'aujourd'hui l'hôpital il a déjà du mal à faire les soins, alors tout ce qui est autour, c'est juste pas possible et nous on est là pour ça.
Pour faire vos dons, rendez-vous sur lerallyeducœur.com. L'Olympique lyonnais sous bannière américaine, c'est quasiment fait. OL Group est entré en négociation exclusive avec Eagle Football Holdings LLC de l'américain John Textor. Ce dernier va ainsi acquérir les parts vendues par IDG et Pathé. Il va aussi faire l'acquisition d'une partie du capital détenu par Allnest, la holding de Jean-Michel Aulas, pour devenir majoritaire avec une augmentation de capital immédiate d'environ 90 millions d'euros. Jean-Michel Aulas, le président historique du club, va conserver ses fonctions pendant 3 ans. À égalité, un partout après les 2 premiers matchs de la finale du championnat de France, Monaco et l'ASVEL se retrouvaient pour la 3e manche hier soir à la salle Gaston Médecin. L'ASVEL est bien rentré dans la partie, menant 14-18 à la pause. Mais Monaco allait inverser la tendance dans le 2e quart-temps, 39-33 à la mi-temps. Les Monégasques l'ont finalement emporté 83-80. L'ASVEL se retrouve donc au pied du mur avant le match 4 demain mercredi à 20h30. Monaco, qui mène deux manches à une désormais, est à une victoire d'un premier titre de champion de France. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Excellente journée.